Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Neuf heures dans le bureau de Parc Jupiter où Juliette s'active depuis une demi-heure.
Aïe !
Salut Juju !
Salut Juju !
Tu refais la déco ?
Non, enfin si, oui. Mais pas la déco du bureau, la déco de nos personnes. J'installe un miroir.
Mais quel moment on lui explique le principe de la radio ?
Non mais j'ai très bien compris le principe de la radio. Je te signale simplement, vous auriez pu me prévenir qu'on était filmé.
Mais en tant que co-animatrice, j'estime que quand même...
Mais Juliette, les 12 caméras dans le studio, là, on peut pas dire qu'elles soient cachées quand même.
Oui,
mais
quand
moi
même.
Je pensais que c'était des caméras de surveillance.
Mais pour surveiller quoi ? Ta consommation d'alcool ?
Puis il y a des indices, Juliette, t'as bien vu les gros projecteurs carrés là, c'est pas pour faire griller des kebabs.
Oui,
en tout cas, j'ai regardé l'émission filmée et c'est un cauchemar esthétique. On est pâle comme des culs. On dirait des vampires dans un film de Murnau.
Mais c'est quoi le rapport avec le miroir en fait ?
Eh ben le rapport, c'est qu'on s'y regarde avant d'aller à l'antenne et qu'on utilise le petit kit de maquillage que j'ai mis à disposition.
Ah non,
blush, crayon à yeux, anti-cerne là-bas.
Non, alors ça jamais. Sur mon corps mort, tu mettras du blush si tu veux, mais alors pas pour faire de la radio, non mais enfin.
Non, mais jamais, mais moi non plus, on est des animateurs radio, pas des jeunes premiers.
Ou des vieilles secondes hein, dans le cas de Juliette.
Et le respect des spectateurs, on s'assoit dessus.
Auditeur, Juliette,
ça n'empêche pas d'être présentable. Alors Charline,
dorénavant,
les lunettes, c'est pas un serre-tête.
Oh.
Et toi, Guillaume, les pulls, tu les prends à ta taille.
Ah oui, ça c'est vrai, ça. Ah, si, bah,
et blush pour tout le monde, sinon je m'immole.
Ouais, bien sûr, et puis moi je mets des talons hauts, et puis Guillaume des pantalons à pinces.
Et des mocassins à glands.
Tu préfères peut-être des sandales, comme ça faudrait aussi mettre du blush sur les pieds.
Ben non, les couillons, c'est le principe de la télé. On est des hommes troncs.
Juliette, s'il te plaît, recentre-toi sur le cœur de ton activité.
La radio.
Non, la déco, parce que le miroir est de travers.
Oh.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique, dont voici la devise du jour, il faut toujours garder une pomme C pour la soif du copier-coller.
C'est
et voici
c'est
le menu.
De Thomas Sisley, ça, non
le ben coller, oui, c'est vrai. Ou Gad Elmaleh. Le prix du mètre carré à Paris a récemment passé la barre des 10 000 euros du mètre carré, faisant de Paname la ville des CSP+ et des Qataris. Alors, car que peut-on encore acheter ou même louer avec un salaire moyen ?
Enfin, c'est un clapier,
juste
quoi.
Vis-à-vis.
Mais faites-le visiter à des lapins, je pense.
Le président de la République met la pression sur ses ministres pour obtenir des résultats. Ses conseillers ont conçu une appli smartphone pour suivre en temps réel l'état d'avancement du travail de chacun des membres du gouvernement.
Je surveillais l'adjudant. Décidément, vous êtes un maniaque de l'espionnette.
Il y a bel et bien en France un village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur Netflix. Il est dans la télé et il s'appelle Plus belle la vie. Mais aussi un si grand soleil. Et encore, demain nous appartient. Parce que même Jean-Luc Godard, eh ben il aime ça les feuilletons.
Ah mais Dallas, c'est pas mal. Moi j'aime bien voir Dallas, mais pas tous les jours.
Juliette, à quel chroniqueur avez-vous envoyé un Bristol pour aujourd'hui ?
Oh ben c'est pas compliqué, les meilleurs. D'abord, Mélanie Bauer, celle qui ne participe pas à la parade des hits, ne classe pas la musique par top 50, mais veille à la redistribution des chances aux chansons.
Parce que c'est beau,
c'est
me touche tellement. Aujourd'hui, je vais vous présenter un artiste de l'ombre qui vient de décéder.
Comme par hasard. Ensuite, Guillaume Meurice, à propos duquel j'ai un scoop faramineux, il vient de se faire tatouer en haut de la cuisse gauche sa devise, les gens sont cons, faut en profiter.
Oui, c'est vrai,
ça pourrait
être vrai. Moi je vais vous parler d'immigration aujourd'hui, un sujet un petit peu léger, un petit peu cool, parce que Macron a relancé le débat et ça tombe bien, les Français ont un avis.
Ouais, entre ceux qui repartent et ceux qui reviennent, comme les Roumains tu les prends et ils partent le lundi, ils reviennent le samedi.
Hein. C'est le mouvement perpétuel du Roumain, c'est bien connu.
Voilà, avec les fausses dents. Et enfin Pablo Mira, qui comme sa cravate ne l'indique pas, est en charge dans l'émission de tout ce qui est bienveillance, droits de l'homme et compassion.
Ouais, il y a un lien. Salut Juju, salut Charline, Mélanie. Grisouille, votre existence est une insulte pour notre vue. Aujourd'hui, on va parler de bouffe, de gras, de sucre, de steak. Non, on va pas parler de ce qui se dépose sur votre visage quand Gérard Larcher vous éternue dessus. On va parler McDonald's qui fête ses 40 ans en France.
Et voici celui qui vient s'en canailler dans l'open space. Vous êtes...
Sébastien Castro.
Et ça c'est
joli.
Première bonne réponse.
Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Sébastien Castro, c'est aussi une voix, c'est vrai.
Oui, je fais un peu de radio.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Chardine.
Vous avez démarré sur scène à 22 ans avec un one-man show, vous avez commencé
exact.
Très tôt. Ouais. Et puis vous avez suivi des cours de théâtre, vous êtes davantage au théâtre, vous êtes devenu véritablement comédien. Pierre Palmade vous
parce
a notamment...
Parce que ceux qui font des one-man shows, ils ne sont pas comédiens.
Non, pas vraiment.
Ok, enchaîné.
On les attend moins dans Tchekhov, mais pourquoi pas. Hein. Pierre Palmade vous a dirigé dans le comique, par exemple, vous avez aussi joué dans Amour et Chipolata de Jean-Luc Lemoyne,
par 500 fois.
Ouais, mais c'est énorme succès,
énorme
bien sûr.
Succès.
Et Pierre Palmade vous avait encouragé à écrire, et c'est en tant qu'auteur d'une pièce de théâtre et acteur aussi que on vous reçoit aujourd'hui, Sébastien Castro. J'ai envie de toi.
Oh, Charline.
C'est le titre de votre pièce.
Réciproque. Ah, pardon.
Donc, je pense que les auditeurs vont bien retenir le titre de la pièce. Qui s'appelle Pablo?
J'ai envie de toi, ma louloute.
Voilà, exactement.
Juliette, le titre de la pièce?
J'ai envie de toi.
Oh.
Non, c'est pas le même.
Au théâtre Fontaine, pour l'instant à Paris, jusqu'au 5 janvier. Sachez, chers amis auditeurs, que cette pièce sera en tournée. Il faudrait être un peu patient, mais elle viendra chez vous de janvier à avril 2021. C'est déjà prévu. Vous dire si le succès est annoncé. Sébastien Castro, Juliette est allée vous voir.
Alors, l'état des lieux au début de la pièce, qui s'intitule donc « J'ai envie de toi ». Guillaume a rendez-vous avec une inconnue pour la connaître, justement, et plus s'y affiniter. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'il a pour voisin de palier Youssouf. Vous, Sébastien Castro, qui s'incruste justement ce soir-là chez lui par la cloison de leur placard commun. Tout pourrait encore aller bien, mais Youssouf, par son bavardage intrusif, le trouble suffisamment Guillaume pour perturber l'envoi d'un SMS à la belle inconnue. Un SMS laconique, mais précis... J'ai envie de toi. Et bim, il l'envoie à son ex au lieu de l'envoyer à l'inconnu. Et là, rien ne va plus, d'autant que Youssouf, qui a un fort potentiel de gaffeur, veut aider. Et c'est parti pour une soirée chaotique pendant laquelle des gens vont avoir des activités sexuelles, mais pas Guillaume.
Mais c'est
Youssouf,
le seul.
C'est le seul. Mais Youssouf, oui, aux innocents, les mains pleines. Donc, Youssouf, en l'occurrence, vous, je répète, c'est une nouvelle catégorie de François Pignon, Candide. Il en faut toujours un dans un vaudeville, mais avec deux tensions. Dans c'est cette vrai. Réhabilitation de la pièce de boulevard, qui maintenant est devenue un classique, est-ce que le code de l'innocent est nécessaire?
Oui, j'aime énormément. C'est très beau tout ce que. On peut se tutoyer, Juliette?
Parce que vous avez envie de moi?
Oui, voilà. Ça va te faire.
Il y a une tension.
J'adore tout ce que tu as écrit.
On là-dessus,
c'est très joli. Oui, pardon.
Protégez-vous.
Là, c'est à moi de répondre.
Tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Oui,
et après, tu continueras ta chronique.
Non, après, je continue à vous poser des questions.
Ah, très bien, pardon. Oui, j'adore la comparaison avec Pignon, elle est extrêmement flatteuse. Et oui, je dirais pas qu'il est con. Il est
Il est Candide.
Vous faites une
non comment... il est Candide.
Oui, il a toujours envie de bien faire.
Oui.
Il est plein de bonne volonté et ça merde systématiquement.
Oui.
Mais c'est un concours de circonstances malheureux.
Oui, on va dire que c'est un concours de circonstances.
Je défends mon personnage que j'aime énormément.
C'est bien. Donc il y a les portes qui claquent. On coche les cases du vaudeville. C'est facile. Il y a un placard qui relie les deux appartements. L'équiproquo, c'est bon également avec une inconnue qu'on prend tout de suite pour qui elle n'est pas. En fait, vous démontrez à la fois une connaissance des codes de ce classique, qu'est le vaudeville, et un respect. Ça vous vient d'où?
Tout est parti d'une pièce de boulevard qui a été écrite il y a 30 ans, de Ray Cooney, qui est vraiment le maître du genre anglais, qu'on a joué avec José Paul, qui s'appelle « C'est encore mieux l'après-midi ». Et José voulait pas faire de reprise de pièce. Il m'a dit « Mais enfin, on va pas jouer une pièce qui a 30 ans ». Je lui ai dit « Allez, on fait une lecture, tu vas voir, on lit la pièce ». Il dit « C'est hilarant ». Allez, on le fait. Et il me dit, en revanche, promets-moi que la prochaine pièce qu'on fait ensemble, ce sera une création. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer d'écrire un boulevard aussi bien construit que ceux du maître, mais avec des sujets d'aujourd'hui.
Alors, c'est assez amusant parce que dans le théâtre privé, ces dernières années, on a vu Michel Faux réinventer à sa manière le vaudeville, mais en gardant les textes d'origine,
absolument.
Par exemple Barrier et Grédy. Et lui, ce qui modernise, c'est la scénographie et la mise en scène.
Oui.
Vous décidez que vous pouvez faire avec un nouveau texte. Alors c'est quoi justement? Comment vous amenez le modernisme?
Avec les thèmes de la pièce, c'est-à-dire que cette rencontre sur Internet, il attend une femme qu'il a jamais vue, ce qui l'empêche absolument pas de lui envoyer « J'ai envie de toi ».
Ce qui est quand même particulier.
Ce qui est très particulier.
C'est un peu vif.
C'est un peu vif. Enfin, ils se sont échangés quelques messages et il a envie d'elle. Il a envie de son esprit et de ce qu'il imagine être son physique, puisqu'il ne l'a pas encore vue. Et évidemment, le fait qu'il ne l'ait pas vu engendrera le premier quiproquo, qui rebondira sur le deuxième, qui rebondira sur le troisième. En écrivant, je me disais, c'est peut-être beaucoup quand même. Tout Est-ce que c'est pas trop? Visiblement, ça passe.
Non, mais ça passe. Je confirme, la salle se roulait par terre. Et il y a un truc assez surprenant, c'est que le Théâtre Fontaine, c'est quand même une salle assez impressionnante, oui. 600 places. Oui. Et sur scène, il y a une bande d'acteurs qui ont du métier, mais personne n'est une tête d'affiche.
C'est vrai.
À part vous,
oui.
Mais vous n'êtes pas non plus Gérard Philippe.
Non, ça se saurait.
Et c'est un succès. Est-ce que c'était un pari de vol?
C'est l'intelligence de notre producteur Pascal Legros, c'est-à-dire que quand on lui apporte la pièce et qu'il la lit, il a dit, bon, très bien, allez, on le fait, mais qui la joue? Et là, on lui dit, Guillaume Cléris, Maud Le Guénédal, Anne-Sophie Germanaz, pardon, Astrid Ross, Alexandre Jérôme et moi-même, et il dit, ah, bah, très bien, allez, on y va. Alors que d'autres auraient vraiment essayé d'imposer ce qu'on appelle des vedettes de cinéma, de télé. Et c'est un pari réussi, puisque à partir du moment où la pièce est drôle, fonctionne, le bouche à oreille marche visiblement du feu de Dieu, les gens se foutent, je pense, en réalité, d'avoir un nom qui va les rassurer, et la priorité étant de passer une soirée et de rire.
Sébastien Castro propose donc cette pièce qui s'intitule « J'ai envie de toi », mise en scène de José Paul. Vous avez cité vos camarades,
oui.
On les recitera bien sûr tout à l'heure. C'est au Théâtre Fontaine jusqu'au 5 janvier. C'est du mardi au vendredi à 21h. Le samedi, vous jouez deux fois, 16h30, 21h. Le dimanche, à 16h.
Oui.
Et pour toute la France, ce sera de janvier à avril 2021. Oh The Feeling, Charles Bradley sur France Inter. Car vous écoutez Par Jupiter, quel excellent goût vous avez. Sébastien Castro est en notre compagnie. Il a écrit et il joue dans J'ai envie de toi, mise en scène de José Paul. C'est une pièce de théâtre qui se joue en ce moment au Théâtre Fontaine et puis qui tournera en France au début 2021. Sébastien Castro est entouré de qui, Juliette?
De la blonde Mélanie Bauer, du roux Pablo Mira et du grisonnant Guillaume Meurice.
Et il va va à présent plonger dans l'actualité.
Tout à fait. Oh,
pour ce qui est de Patrick, je suis fier de lui, je suis fier de ce qu'il a accompli et de ce qu'il accomplira.
Le journal de presque 17h17.
Ah non, ça va pas recommencer. Ben, c'est carrément grotesque, hein.
Et on commence par les titres.
Oui, dans ce journal, on parlera de la visite d'Emmanuel Macron en Italie.
Un voyage entre humanité et fermeté.
Et on parlera aussi de la visite d'Isabelle Balkany en prison.
Un voyage entre le parloir et les douches.
Et on parlera enfin de la visite de Gérard Larcher sur France Inter.
Un voyage entre le cassoulet et la blanquette de veau.
Et on commence avec la justice. Isabelle Balkany raconte sa première visite à Patoche en prison et déclare, je cite, « C'était un choc ».
Mais on la comprend, pour nous aussi, ça a été un choc de voir Patrick Balkany payer sa dette. On n'était vraiment pas habitués à ça.
Politique à présent, sur Public Sénat, Stéphane Le Foll s'est déclaré surpris des propos d'Emmanuel Macron sur l'immigration.
Mais c'est vrai que c'est vraiment surprenant. Quoi.
Ah bah
c'est...
ça, on n'attendait pas Macron sur ce terrain.
Non, hein, c'est surprenant qu'on demande encore son avis à Stéphane Le Foll.
Effectivement. Politique véritablement, présent. Oui. Gérard Larcher était l'invité ce matin sur France Inter, et quand on l'a interrogé sur le verdict de l'affaire Balkany...
C'est une décision de justice et je ne la commande pas.
Alors là, très bien, tout à son honneur. Hein. Oui. Bon, j'imagine qu'il a eu la même rigueur quand on l'a interrogé sur les décrocheurs du portrait d'Emmanuel Macron.
Sur ce sujet, en fait, vous avez un juge militant.
Le fameux deux poids deux mesures, comme dirait le diététicien de Gérard.
International à présent.
La Russie nie toute menace après une explosion dans un centre abritant le virus de la variole et celui d'Ebola.
Inquiète, la France conseille à la Russie d'instaurer une distance de 5 à 10 mètres entre une explosion et les habitations.
Nucléaire, toujours. EDF signale des problèmes de fabrication sur 6 réacteurs en activité, mais les juges aptes au service.
Voilà, donc c'est bon, hein, vous pouvez continuer à vomir des glaires en regardant grandir vos enfants à 8 bras.
Ce qui nous amène à une petite page santé, oui, car selon une récente étude, 3 retraités sur 10 ne touchent pas la retraite complète à laquelle ils ont pourtant droit.
Et oui, pour les caisses de retraite, vive Alzheimer.
Selon l'Association américaine de médecine, une américaine sur 16 n'était pas consentante lors de son premier rapport sexuel.
Une conclusion inquiétante, hein, d'autant qu'à ma connaissance, Patrick Bruel n'a jamais fait de tournée américaine.
Oh. En effet, c'est vrai. International, la faute de majorité. Les Espagnols revotent le 10 novembre pour les législatives. Ce sera donc la 4e fois qu'ils votent en 4 ans.
Et on comprend mieux pourquoi Manuel Valls s'est installé là-bas.
Ah bah voilà.
Automatiquement.
Cinéma, à l'occasion de la sortie en France de son dernier film, Woody Allen a déclaré, je cite, « Il n'y a rien de plus romantique que d'échanger un baiser sous la pluie ».
Oui, et sa femme a confirmé en disant « Je t'aime, papa ».
Musique, à présent, avec Michel Sardou, qui est en pleine forme en ce moment et qui a, il y a quelques jours, déclaré ceci.
Ce que je n'aime pas, c'est le rap violent. J'aime pas le rap agressif, j'aime pas le rap qui en veut à quelqu'un, qui, voilà.
Voilà. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais dans celle de Booba, qui lui a répondu sur les réseaux sociaux en rappelant à Michel les paroles de ses plus belles chansons.
Tu n'as plus besoin d'avocat.
Le clash Booba Sardou, donc rendez-vous dans un octogone ou dans un EHPAD.
Et enfin, on termine avec une information scientifique. Des chercheurs ont appris à des rats à jouer à cache-cache.
Et c'est d'autant plus mignon que les 3 rats ont été baptisés Xavier, Dupont et Ligonès.
Merci Guillaume, il est 17h25 sur France Inter. Et dans Par Jupiter, l'invité, c'est Sébastien Castro, auteur de théâtre, comédien. Et on va aborder avec vous ce premier sujet, avant d'écouter Mélanie Bauer et Pablo Mira. En rentrant de vacances, les Parisiens ont découvert que le prix du mètre carré dans la capitale avait dépassé la barre des 10 000 euros.
J'ai appris ça.
En moyenne. En moyenne, car certains quartiers montent jusqu'à 12 000 euros. C'est d'ailleurs dans ces quartiers-là qu'on trouve quelques brasseries qui facture la tranche de citron quand vous commandez un Perrier rondelle, si c'est véridique. Le journal Le Parisien a vérifié.
La rondelle de citron.
Voilà, Le Parisien a vérifié une information qui tournait sur les réseaux sociaux. Les gens prenaient en photo le ticket de caisse de leur Perrier rondelle. 50 centimes, effectivement, Pablo. Alors, où habiter intramuros quand on gagne le salaire moyen? Question, que faire?
Tante Maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyétiné. Et alors, attention. La chambre d'amis, avec contre-porte moustiquaire.
Okay. C'est une tente, quoi.
Ouais, bouger un petit peu plus quand même.
Franck Dubosc, dans Camping, ça nous fait toujours rire, de Fabien Antoniente, avec lequel vous avez tourné,
bien
n'est-ce
sûr,
pas
voilà. Dans Turf.
Et voilà, Sébastien Castro.
J'avais une scène. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Je disais oui.
C'est pas mal déjà.
Mais pendant très longtemps, pendant 15 minutes.
Pendant une petite minute, mais sur le tournage, Fabien m'a rajouté Non, non.
Ah, sympa. Non, non.
Et oui, parce que c'était clivant que oui.
Oui, voilà.
Il fallait équilibrer.
Cachet voilà.
C'est vrai. Alors, donc, la barre des 10 000 euros dépassée pour le mètre carré à Paris. On est cependant en dessous du prix du mètre carré encore à Londres ou à New York. Mais toutefois, c'est vertigineux. Alors, est-ce que vous vivez intramuros, vous, Sébastien Castro?
Oui.
Et alors, comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on s'en accommode? Est-ce qu'on s'habitue? Est-ce que vous venez d'Enghien-les-Bains, c'est ça?
Oui.
Est-ce que quand on n'est pas né à Paris, ou même si on est né à Paris, on hallucine bien sûr. Voilà, est-ce qu'on est encore scandalisé? On a intégré le scandale, comment
on
réagit?
Ah non, on est scandalisé et on se dit, heureusement que j'ai acheté il y a 10 ans parce que maintenant je ne pourrais plus. Mm-hmm. Mais c'est terrible pour ceux qui ne peuvent plus maintenant et qui pourront de moins en moins. Et qui va habiter à Paris? Des milliardaires, ce sera plus que des pieds à terre. Je sais pas ce qui va se passer, mais
Oui, c'est une majorité quand c'est des Français de CSP+,
oui.
De cadres ou plutôt haut cadres, et beaucoup d'étrangers aussi. Bon.
Il y a les héritages aussi.
Il y a les héritages.
Les héritages, effectivement. Et heureusement qu'il y a des logements sociaux un petit peu. C'est là qu'on se dit.
Loin de moi l'idée de tout ramener à ma pièce, mais on est en plein dedans.
C'est justement une des raisons pour lesquelles on a aussi choisi ce sujet.
Parce que c'est vrai que quand le rideau s'ouvre, en fait, le décor, ce sont deux appartements.
Ce sont des appartements.
Et on voit bien qu'ils ne sont pas grands. On n'est pas chez des gens, on n'est pas chez des bourgeois, que ce soit chez Guillaume ou chez Youssouf.
Oui.
C'est des appartements.
C'est des appartements parisiens, par définition.
Que vous louez en dehors du spectacle.
Sûr, en journée.
On rentabilise le plateau.
Dès que la présentation est finie,
le placard qui se situe.
Voilà,
au milieu de la mer, vaut 10 000 boules déjà.
C'est exactement ça. C'est un placard d'un mètre carré qui vaut 10 000 euros. Et c'est ce que je dis. Donc mon personnage qui récupère ce placard qui est occupé de manière totalement illégale depuis des années, puisque sur les plans de copro, ce placard lui appartient. Il le récupère enfin. Son voisin qui a qu'une...
Ah oui, vous prenez fait et cause pour votre personnage.
Mais complètement. Non, mais c'est terrible. Mais c'est vrai, il déteint sur moi et ça m'inquiète.
Il joue Rebels dans un prochain film.
Et donc, puisque c'est même plus Youssouf, maintenant c'est moi.
Très clairement.
Donc je dis à Guillaume, c'est mon placard, je le récupère. Et lui, sa seule préoccupation, c'est de recevoir Julie. Donc il s'en fout un peu du placard. Et je lui dis quand même, au prix du mètre carré, pour vous, c'est une catastrophe, quoi. Mais c'est absolument pas sa priorité. Je crois qu'il a pas réalisé que c'était 10 000 euros du mètre carré. Il se dit juste, je trouvais pas ça très pratique, ce placard dans l'entrée, je pourrais mettre un dressing.
On en est là. Donc, on a déclenché une guerre nucléaire entre voisins pour un placard quand c'est à 10 000 boules du mètre carré. Pour terminer sur ce sujet, si vous vous attablez dans une brasserie parisienne, que vous recevez le ticket de votre eau minérale dans laquelle il y a une rondelle de citron qui est facturée 50 centimes, vous faites quoi?
Je suis vraiment capable de consacrer énormément de temps à cette rondelle, à faire un courrier, à renoncer. Je perds un temps fou avec ça. Donc là, j'essaierai de me convaincre de laisser tomber.
Ouais.
Mais au fond de moi, il y a toujours ce petit truc de « Oui, mais si tu laisses tomber, qu'est-ce que ça va devenir ?» Toutes ces rondelles à 50 centimes, imagine.
Voilà. Les gens qui viennent à Paris sont prévenus. Rebellez-vous. Je ne prendrai pas cette rondelle. Mélanie Boer, si on apaisait cet énervement avec la hausse des loyers aussi. Parce
on est bien agacés.
Moi, je suis SDF, je tiens à le dire. Cher Sébastien Castro, il y a quelques années, vous avez écrit un one-man show qui s'appelait Toutes mes condoléances. Alors, loin de moi l'idée de rivaliser avec vous sur le terrain des blagues. En revanche, cette semaine, côté décès dans la musique, je peux facilement vous battre sur les rips et autres émojis qui pleurent sur les réseaux sociaux. Je voulais en particulier vous parler d'un monsieur peu connu du grand public, dont un des noms d'artiste était Monsieur Chance, Mathieu Ballet, qui s'est éteint il y a quelques jours, un chouette monsieur. Déjà, il était clavier d'un groupe qui a marqué ma jeunesse, Oui, qui débute en 1983, Oui. Tout est autour de vous aujourd'hui, avec Étienne Charry et Michel Gondry, et des chansons formidables comme celle-ci. Oui, j'aime vraiment beaucoup cette chanson. Si vous êtes fan...
On sent l'auteur derrière.
L'agent immobilier.
Si vous êtes fan du réalisateur Michel Gondry, je vous invite à regarder le clip de cette chanson qui est une joie de bidouille avec des insectes dedans. Mathieu Ballet était musicien, mais il était aussi ingénieur du son, réalisateur de disques. On le croise sur le Fantaisie militaire de Bachung, les premiers albums de Miossec, avec Jean-Luc Le Ténia, si vous ne connaissez pas, c'est extraordinaire. Je vous invite à écouter. Agnès Bill, Alex XIHK et même nos copains d'Elmer Footbeat. Ils réalisent Les Rois du bord de mer et ce jet-d'œuvre de surf musique, Frédéric Dard dort.
Mais
Mathieu Ballet n'était pas un frimeur de la musique, une vedette déjantée. Non, c'était un grand gars qui n'avait pas besoin d'aboyer pour imposer le respect. Une douce personne, tout en tendresse et un bon copain de tournée. 3 ans de scène avec Miossec, 25 ans d'amitié avec un autre groupe pop culte des années 90, Les Objets d'Olivier Libault et Jérôme Rousseau, le pur son pop des 90s. Vous reconnaissez le pur son pop des 90s,
ouais,
tellement ces guitares un petit peu claires comme ça.
Ouais, c'est un pur son pop des 90s.
Eh oui.
On a dit que c'était un pur son pop des 90s.
C'est un pur son.
C'est des années 90 à peu près.
Ouais. Ouais.
Les 90s, qu'on dit en anglais.
Ouais, ouais. Sacré son en tout cas. Hein.
Pur.
Ouais.
C'est important de comprendre que dans la musique, il n'y a pas que des têtes de gondole. J'en ai en face de moi. Il y a aussi des passionnés, des artisans qui vivent dans l'ombre de leur passion. Mathieu Ballet faisait des conférences au conservatoire et à la fac de musicologie de Rennes, aidait des artistes à accoucher de leurs chansons, organisait un festival en Vendée et puis il avait son propre projet complètement tout seul, un disque qu'il ne savait pas vendre par humilité. Sous le nom de Monsieur Chance, il était un raconteur d'histoires. On savait jamais vraiment si elles étaient complètement vraies. Ici, la lettre d'Antonin Artaud à Monsieur le législateur de la loi des stupéfiants, Mathieu Ballet, Monsieur Chance.
Monsieur le législateur de la loi de 1916, agrémenté du décret de juillet 1917 sur les stupéfiants, tu es un con. Ta loi ne sert qu'à embêter la pharmacie mondiale sans profit pour l'étiage toxicomanique de la nation. Parce que le nombre des toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien est infime. Les vrais toxicomanes ne s'approvisionnent pas chez le pharmacien. Les toxicomanes qui s'approvisionnent chez le pharmacien sont tous des malades. Le nombre des toxicomanes malades est infime par rapport à celui des toxicomanes voluptueux. Les restrictions pharmaceutiques de la drogue ne gêneront jamais les toxicomanes voluptueux et organisés. Il y aura toujours des fraudeurs. Il y aura toujours des toxicomanes par vice de forme, par passion. Les toxicomanes malades ont sur la société un droit imprescriptible qui est celui qu'on leur fout de la paix. C'est avant tout une question de conscience. Inspecteur usurpateur de la santé publique, le droit de disposer de la douleur des hommes. C'est une prétention singulière de la médecine moderne que de vouloir dicter ses devoirs à la conscience de chacun. Tous les bannements de la charte officielle sont sans pouvoir d'action contre ce fait de conscience, à savoir que, plus encore que de la mort, je suis le maître de ma douleur. Tout homme est juge, et juge exclusif de la quantité de douleur physique ou encore de faculté mentale qu'il peut honnêtement supporter. Lucidité ou non lucidité, il y a une lucidité que nulle maladie ne m'enlèvera jamais, c'est celle qui me dicte le sentiment de ma vie physique. Et si j'ai perdu ma lucidité, la médecine n'a qu'une chose à faire, c'est de me donner les substances qui me permettent de recouvrer l'usage de cette lucidité.
Mathieu Ballet, une messe sera dite à Beauvoir-sur-Mer demain à 15h. Il sera enterré ensuite au cimetière de Beauvoir. Il a choisi la musique pour la cérémonie. Il ne souhaitait ni fleurs ni couronne et suggérait plutôt de faire un don auprès de l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Toutes mes condoléances.
Mélanie Bauer, en tout cas, il voulait pas être enterré dans l'intimité.
je suppose. Parce que là, c'est raté. Merci pour ce bel hommage.
Je vais lui faire un bisou, si vous voulez, si vous ne le connaissez pas, mais bon.
Voilà, ça vous tenait à cœur et on est ravis que vous remettiez en lumière cet homme de l'ombre qui est derrière tant de titres qu'on a écoutés.
Et donc, grand monsieur de la musique.
De l'entendre et de lui rendre hommage. Merci Mélanie Bauer. Il est 17h37 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Est présent notre invité Sébastien Castro, qui est venu nous présenter la pièce qu'il a écrite qui s'appelle J'ai envie de toi, qui est mise en scène par José Paul, dans laquelle il joue Sébastien Castro aux côtés de Maud Guénédal, Guillaume Cléris, Anne-Sophie Germanaz.
Bien, j'ai écorché tout à l'heure et je m'en veux encore.
Astrid Rose.
On prononce Germanin, hein, je crois.
Astrid Ross.
Alexandre Jérôme, c'est au théâtre Fontaine.
Et c'est Maud Le Guénédal, je me permets.
Pardon. Mais pardon. Le Guénédal. J'ai oublié le petit le.
Oui.
Le fact-checking.
C'est un petit peu comme si dans mon nom j'oubliais le van. Vous voyez, donc je comprends très très bien. Chers auditeurs, vous êtes en compagnie notamment, vous allez avoir entendu de Mélanie Bauer, de Juliette Arnaud, du petit ange trapu, vous êtes la Mouloulou,
c'est moi-même,
Pablo Mira, et bien sûr de Guillaume Meurice.
Oui, je vais vous parler d'Emmanuel Macron aujourd'hui qui a décidé d'apaiser notre pays qui est fracturé en parlant d'immigration. Bien joué, merci docteur Manu, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver l'excellent livre en librairie, Comment soigner ses hémorroïdes au lance-flammes. Manu, c'est aussi l'homme qui murmure aux oreilles des électeurs de Le Pen, hein, c'est le Robert Redford des charognards. Alors immigration, bah parlons-en. Alors l'immigration belge, hein, qui a grand remplacé nos présentateurs et présentatrices. L'immigration ibérique, qui a grand remplacé les chroniqueurs et les comédiens. Et il y a même l'immigration italienne, hein, comme Bardella, qui a carrément grand remplacé notre xénophobie. C'est n'importe quoi. Alors comme c'est vraiment le sujet en France, l'immigration qui met tout le monde d'accord, ça apaise bien tout le monde. Je suis allé faire un tour ce matin dans les rues pour le constater. Est-ce qu'il y a trop d'immigration en France ?
C'est évident. Mais parce que j'ai l'impression qu'on vient de s'en apercevoir, mais ça fait 25 ans que ça dure.
Est-ce que vous connaissez les chiffres de l'immigration ?
Les chiffres exacts, non, mais je vois ce qui se passe, c'est tout.
Combien il y a d'étrangers qui rentrent sur le territoire français ?
Au niveau chiffres, je ne suis pas très calé, mais moi je vois, c'est tout.
Vous faites une estimation visuelle.
Ouais.
Ah, c'est les meilleurs. Hein. Bien sûr, hein. Sinon les chiffres, ça donne mal à la tête, c'est chiant.
Il y a chaque œil.
Ouais, voilà, il y a ceux de l'OFPRA, là, l'Office de protection des réfugiés. Mais moi, je vois, j'ai un kebab en bas de chez moi, je regarde à peu près comment c'est rempli, puis je me fais une idée, quoi. Hein. Il n'y a rien de mieux. Avant, c'était les gens qui chantaient Faudel dans la rue, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors, bon, il y a trop d'immigration, quoi.
Déjà, les Portugais et les Arabes.
Pourquoi principalement les Portugais et les Arabes ?
Non, les Arabes.
Les Arabes avant les Portugais.
Bah oui.
Oui, il faut quand même hiérarchiser. On choisit ceux qui sont plus loin, parce que comme ça, ils vont mettre plus de temps à revenir. Alors, c'est pas bon pour le bilan carbone, vous n'avez pas commencé à chercher la merde. Et puis, les Portugais, ils sont majoritairement pas musulmans. Et ça, c'est quand même assez cool. Parce que les musulmans en France, une dame m'a dit qu'ils allaient faire quoi ?
Qu'ils allaient faire une petite mosquée au premier étage de la Tour Eiffel. Ben, attendez, si on arrivait à un truc comme ça, moi je dis là c'est grave quand même.
Mais vous avez vu ça où ?
J'ai lu ça dans un journal.
Ah oui ?
Oui.
Et quel journal ?
50, je sais plus. Enfin, des journaux que j'ai à la maison. Mais on va où là ?
Ah bah, on va où ? Ah mais la question est posée, une mosquée au premier étage de la Tour Eiffel, putain, attends. Si c'est comme ça, moi je vais manger un jambon beurre dans un minaret. Moi je vous le dis, on en est là. Parce que là, c'est grave. Alors cette info m'avait échappé, c'est vrai. Charline en a parlé, c'est ça ?
Quand je fais une chronique sur ce thème, c'est toujours le truc que j'invente.
Et oui,
que
mais les gens vous prennent au sérieux.
Il y aura une mosquée au premier étage de la Tour Eiffel.
C'est la névrose des autres, voilà.
Mais en tout cas, voilà, c'est une vraie info que cette dame a confirmée. Heureusement qu'elle est là, parce que voilà.
Elle m'a piqué ma vanne.
C'est pas Nicolas Demorand, là, le salafiste du 7-9, qui m'aura expliqué ça. Et encore moins la Libanaise, là, qui sort avec le Robespierre de Saint-Germain-des-Prés. Et heureusement que cette dame est très bien renseignée sur plein de choses.
Ça nous coûte combien, un migrant ? Les logements, 600 euros par mois, par la commune et tout. On va où et...
On leur donne 600 euros par mois ?
Ouais, c'est ce que m'a dit ma cousine.
C'est bien votre cousine ?
Peut-être pas 600 euros, mais enfin... On leur donne de l'argent.
Pas 600 euros alors.
Elle m'a dit 600 euros comme ça.
Oui, elle l'a dit comme ça. Bah, à mon avis, elle est bien renseignée, la cousine. Hein. Sinon, elle l'aurait pas dit. À mon avis, d'ailleurs, c'est la même qui bosse dans les journaux qui ont révélé l'histoire de la mosquée sur la Tour Eiffel. En tout cas, elle va pas tarder à foutre le Gorafi au chômage. Mais elle est informée.
Elle a probablement, elle m'a pas dit ça comme ça. Elle a dû être informée, en fait.
Est-ce qu'on est sûr du chiffre ?
Sûr, on n'est jamais sûr, mais on leur donne de l'argent, hein, quand, ça c'est certain. Ils gagnent plus que nous, en fait.
Bien sûr, on est à deux doigts de tous prendre un bateau puis d'aller se la couler douce en Syrie. On en est là. Voilà. En tout cas, la stratégie de monter des pauvres contre des gens encore plus pauvres fonctionne toujours autant. D'ailleurs, je vous dis en Syrie, mais alors question toute bête. En 2018, de quel pays venaient les principales personnes en demande d'asile ? Allez, disons le top 3.
Il y a les Roumains qui veulent. Après, il y a les Indes. Le Pakistan, tous ces gens qui demandent le plus.
Et un troisième, ça serait quoi ?
Un troisième, beaucoup d'Africains.
Alors les trois premiers pays, c'est l'Afghanistan, l'Albanie et la Géorgie.
En gros, c'est ça.
On va pas commencer à chipoter. En tout cas, toute cette demande d'asile venait de l'étranger, hein, comme par hasard. Coïncidence, je ne crois pas, non. D'ailleurs, en parlant d'étrangers, cette dame, elle avait des origines étrangères, non?
Ah là 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 là, ben oui. Ah ben bien sûr, mes parents étaient ukrainiens et alors donc je suis. Moi je suis de parents immigrés.
Mais vous pensez qu'il y a trop d'immigrés en France?
Ah, il y en a trop, ben oui.
Eh ben oui, selon la fameuse technique du dernier arrivé qui ferme la porte, hein, dite également technique de Rose dans Titanic, qui veut pas laisser monter Jack sur cette putain de planche. Macron, quant à lui, continue de tout miser sur le principe des étrangers bouc émissaire, suivi dans son délire par plein de moutons émissaires.
Guillaume Meurice, merci. Il y avait aujourd'hui, merci. Il y avait une belle brochette. Hein.
L'immigration, c'est toujours, bah, ouais, oui, ça, ouais. C'est un sujet gagnant, comme on dit.
Question pour un champion, mais il y a que des champions.
Guillaume Meurice, merci. Qu'on retrouve demain, bien sûr. Vous restez avec nous, avec Sébastien Castro. On aborde cet autre sujet avant d'écouter Pablo Mira. Le Canard Enchaîné confirme ce matin que Jupiter is watching you. C'est comme ça qu'ils ont titré l'article. Ah oui. Le président, en effet, surveille l'état d'avancement du travail des ministres avec une application smartphone. Il reçoit des statistiques sur son téléphone, le pourcentage d'avancement de chaque réforme. Une belle métaphore de la Startup Nation. Macron a quelques petites astuces comme ça pour garder ses ministres à l'œil.
Credit sur Grossis. Manu Micron va se faire passer pour un jeune conseiller afin d'observer les ministres qu'il a nommés.
Bonjour. Je m'appelle Reynald, je suis le nouveau conseiller gouvernemental.
Enchanté, Muriel Bénibou, ministre du Travail.
Alors, quelle impression une fois dans les ministères?
J'ai réalisé une plus-value boursière de 1 million d'euros dans mon ancienne entreprise en spéculant sur le licenciement de 900 personnes. Et maintenant, je me retrouve à contrôler les chômeurs.
Oui.
Pour le verdict, il va devoir tomber le masque.
Je suis Manu Micron, votre patron.
Mince alors.
Manu, je vais t'expliquer.
Je ne veux rien entendre. Je vous félicite. Vous êtes une belle bande de libéraux.
Pour tout savoir sur notre gouvernement, Micro Incognito, Credit sur Grossis à 20h53.
Vous aurez reconnu, bien sûr, Groland. Alors, est-ce que, Sébastien Castro, vous trouvez que c'est une bonne idée, cette appli?
Cette application, oui. Alors, ma cousine m'a dit...
C'est la même, ouais.
C'est la même que la dame, hein. Je suis cousin avec la dame. Ouais. Que peut-être cette application pourrait être ouverte au grand public et que tout le monde pourrait télécharger cette application pour surveiller l'avancement du travail des ministres.
Oh, c'est formidable.
C'est ma cousine qui me l'a dit, ouais. Donc c'est vrai. Et là, ça m'a quand même un peu angoissé et je me suis mis à la place des ministres et je me suis dit que j'aimerais pas du tout que, quand j'apprends un texte, qu'on voit 12 lignes, 14 lignes, 18 lignes et qu'on suive l'évolution. Donc ça m'a un peu stressé pour eux.
Effectivement, c'est un peu glaçant.
Mais alors, justement, est-ce que vous surveillez, vous, vos comédiens sur scène?
C'est un cauchemar.
Parce que vous êtes, on le rappelle, vous êtes quand même auteur de la pièce. Oui. Donc vous n'êtes pas tout à fait à égalité avec
pas
les autres.
Pas tout à fait. J'adorerais l'être. En théorie, je le suis.
Non.
Et en pratique, pas du tout. Mais j'ai joué avec des auteurs comédiens. Et je voyais bien que c'était compliqué pour eux de n'être que comédien et de pas avoir au fond de l'œil, bah pourquoi il dit pas la réplique habituelle, pourquoi est-ce qu'il met ce mot-là à la place de celui-là. Et à l'époque, je me dis oh, il pourrait être plus cool. Eh ben, je suis pas du tout cool. Non, mais je... Oui.
Donc finalement, vous le comprenez un petit peu, le président, avec son appli.
Voilà, c'est ça, c'est bien d'inverser les rôles. Voilà, exactement.
Et qui surveillerait, qui contrôlerait le travail du président de la République lui-même, d'après vous
question.
Qu'est-ce qui régule tout ça?
Alors, faut demander à ma cousine.
La courbe de popularité, les lobbies, Brigitte...
Brigitte
qui... Brigitte, elle contrôle sec,
ça bien.
Oui, peut-être un contrôle, effectivement. Et vous, qui contrôle votre travail?
Ah bah le metteur en scène.
Ouais.
Ah oui, c'est pour ça que...
José Paul. Dans ce cas-ci.
Qui venait au début tous les jours, et puis après un petit peu moins, et maintenant il vient par surprise. Voilà, maintenant on ne sait plus, c'est les contrôles surprise.
Et est-ce que vous regardez les notes des spectateurs? Parce que maintenant il y a ça sur tous les sites internet.
Alors, c'est une
des
très bonne question. Au début je la regardais tout le temps, tant qu'elles étaient bonnes, je la regardais. Je me suis dit, c'est génial.
C'est la première petite critique.
Et le premier truc...
C'est de la merde.
Non mais je vais vous dire, la première critique négative à mon sujet, que j'ai trouvée d'une violence inouïe, c'est vraiment une dame qui ne m'avait pas supporté dans un film, et qui a écrit, je ne sais pas, je la connais par cœur, je l'ai lu. Alors que les bonnes critiques, je les lisais une fois, et puis on passait à autre chose. Mmh. Je ne sais pas qui est cet acteur qui joue le beau-frère, mais je ne veux plus jamais le voir de ma vie. C'est-à-dire qu'elle voulait que je meure. J'arrête de... Oui,
c'est une certaine violence quand même.
Du coup, je me suis dit, bon, bah, les gens ont le droit d'être excessifs dans les deux sens. parfois ils sont excessifs en disant que c'est voilà, ouais. ils vont trop loin. Mm-hmm. Dans... Et puis là, bah, elle m'a haï.
Vous aimeriez la rencontrer cette personne non, ou pas, bah peut-être non, pour discuter,
oui, remarque.
Ça pourrait. Ouais, parce que Pablo Mira adore les haters.
Ah ouais, non, je me dis, du coup, j'ai arrêté de les lire.
Et pour terminer sur ce sujet, donc Emmanuel Macron, qui depuis son téléphone portable à tout moment peut surveiller en temps réel l'état d'avancement, et avec oui. une petite barre, vous voyez, comme nous quand on télécharge quelque chose, ouais, comme ça. Est-ce que vous y voyez une métaphore de notre société, de notre quotidien, de certains métiers qui sont soumis à ça? Est-ce que ça vous rappelle?
Vous voulez dire de remplacer les rapports humains par une appli et par un graphique, un oui. chiffre et une barre qui avance?
Oui.
Ah oui, ça fait flipper.
C'est ce qui nous entoure.
Après, peut-être que ça peut venir en plus des discussions, des concertations du rapport humain. Si ça vient en plus, c'est que ça peut vraiment stimuler. Enfin, je n'ai pas envie d'émettre de jugement avant de voir ce que ça peut donner. Mm-hmm. Si ça remplace la base et que ça ne devient qu'une application, ça me terrifie, bien sûr.
Puisqu'il est peut-être question, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, il y a un an, avait dit, tiens, pourquoi pas noter les hôpitaux, on veut évaluer les enseignants, etc. Donc, quand on sait que le président de la République utilise cet outil, on se dit, oulala, ça va arriver, probablement. Sébastien Castro est notre invité, et comme il est 17h48 déjà sur France Inter, on va donner la parole à celui dont le corps est aussi affûté qu'une dent de Zaz, c'est Pablo Mira. Pablo, mon petit ange trapu, vous fêtez aujourd'hui les 40 ans de l'enseigne McDonald's en France.
Ouais, joyeux anniversaire McDo. Alors je soufflerai bien sur leurs 40 bougies, mais j'ai mangé un Big Mac ce midi, du coup j'ai le souffle d'un asthmatique pendant les deux prochaines semaines. En tout cas, ces 40 ans, on les a pas vus passer. Une belle histoire qui a commencé officiellement le 17 septembre 1979 à Strasbourg. Et à l'époque, le principe même du fast-food, c'était une vraie révolution. On n'était pas encore familiarisé avec le fait de tout obtenir en une minute, les burgers, les boissons, le cholestérol, tout quoi. Le succès a été pour le coup fulgurant. Faut dire que l'entreprise américaine a toujours excellé dans l'art de la communication. On se souvient tous, par exemple, de l'ancienne mascotte du McDo, le clown Ronald. Mais comme trop de gens avaient peur, voilà, il a fini par disparaître. Maintenant, si vous aimez avoir peur, c'est encore possible. Il suffit de regarder le nombre de calories sur la boîte du double cheese. Tiens, puisqu'on parle de chiffres, une petite info à ressortir en soirée. Écoutez bien, c'est amusant. Vous savez combien de hamburgers McDo sont vendus chaque jour en France? 25 milliards. 25 milliards. Et si vous croyez que ce chiffre est crédible, alors attention, c'est que vous êtes Maxime Nicole. Donc, que vous avez une carte de presse. Félicitations pour l'abattement fiscal. Non, en réalité, McDonald's sert pas loin de 2 millions de repas par jour. Un énorme chiffre, et c'est normal. Il y a que des avantages à manger là-bas. Déjà, c'est pas cher. Un menu, c'est à peine 6,10 € avec un supplément de 50 centimes si vous prenez le menu Maxi Best Of, et un autre petit supplément de 12 000 € pour le triple pontage coronarien derrière. C'est donné. Mais surtout, le McDo est une entreprise inclusive qui pense à tout le monde. Les enfants ont le Happy Meal, et puis avec les troubles érectiles dus à l'alimentation trop grasse, les adultes ont la Happy Meal. Oui, comme...
Ouais.
Non, mais comme Alex est absent 6 jours sur 5 cette saison, je prends le relais sur les jeux de mots pourris cette saison. Mais quand on y pense, quelle idée de génie ce Happy Meal. Il n'y a pas mieux pour occuper les enfants, que ce soit les nôtres qui s'amusent avec les jouets ou les enfants chinois qui les fabriquent. Ça les occupe. Ah là là, je suis désolé de faire un peu ma groupie, mais je pourrais parler de McDo pendant des heures. J'aime tout là-bas. Est-ce que vous êtes déjà allé de l'autre côté du guichet au McDo, en cuisine? C'est tellement particulier l'odeur dans les cuisines d'un resto McDo. Un savant mélange de friture et d'échecs scolaires. Mais bon, je vais quand même évoquer d'autres chaînes de restauration rapide, sinon on va savoir croire que McDo me paye pour dire du bien. Alors je pourrais vous parler aussi de Burger King, Quick ou Five Guys. Five Guys, je les aime bien, pour info. Ils ont appelé ça Five Guys parce qu'après une semaine à manger ça tous les jours, c'est le poids que tu es censé faire. Voyez, on a le choix pour tous. Alors bien sûr, malgré toutes ces superbes success stories, il y a toujours des aigris, hein, des pisses froides pour critiquer les fast-food. Ils vous diront quoi ? Qu'il faut pas y aller, que les conditions d'hygiène sont déplorables, que les employés crachent dans vos burgers. Évidemment, c'est totalement faux. Personne ne crache dans les burgers. Bah non, sinon ils auraient du goût, les burgers. Mais l'argument massue, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'aller au McDo, ça fait grossir. Et là, je dis stop. Non, je préfère qu'on dise qu'aller au McDo, ça fait grandir, horizontalement. Mais restons sur cet argument fallacieux de l'obésité. Personne ne sait ce qui provoque cette maladie très concrètement. Personne. Moi, ma femme, par exemple, elle est en surpoids. Pourtant, elle court matin, midi et soir. Bon, elle court chez McDo, mais il y aurait pénurie de Sunday Caramel.
sinon.
Quoi qu'il en soit, j'ai jamais vu quelqu'un devenir obèse parce qu'il mange un McDonald's ou alors qu'on me le prouve dans ce cas-là. Ah, c'est pour ça que j'ai Denis Lambert au téléphone, chercheur à l'Institut de santé de Montargis. Denis, on est d'accord qu'on ne devient pas obèse en mangeant McDo?
Eh bien, figurez-vous que si, Pablo, car lorsque vous mangez...
Oh mince, oh, c'est dommage, ça a coupé. Mince. On reprendra Denis dès qu'il aura changé d'avis sur ses recherches. De toute façon, c'est la fin de cet édito, ma loulou. Donc pour conclure, j'espère que le message est passé, que les auditeurs ont compris que McDo, c'est pas mauvais pour la santé, à condition de respecter deux règles, pratiquer une activité physique et surtout ne jamais y mettre les pieds. Allez, salut.
Merci Pablo Mira. Si jamais vous avez pris cette chronique en cours et que vous êtes arrivé pour le dessert, sachez que vous pouvez la revoir sur notre page Facebook Par Jupiter et sur franceinter.fr. Bien sûr, elle est aussi podcastable. Le Pablo Miro, ce podcast se prend en tablette,
c'est aussi
en spray,
un physique, Pablo Miro, on a oublié de le dire, mais il y a quelque chose qui se passe visuellement.
Sébastien Castro est avec nous, le comédien et l'auteur de théâtre. Et nous avons un troisième sujet sous le coude, choisi par Juliette.
Saviez-vous que Plus belle la vie en est arrivé à sa 15e saison et à ses 4000 épisodes? Saviez-vous que pour son feuilleton quotidien, France 2 a fait construire des studios télé de 16 000 mètres carrés à Montpellier et que TF1 fait pareil à 7 avec une seule et même recette pour les trois? Du soleil, des romances, des dangers mortels, du suspense à foison et bien sûr et surtout un raffinement extrême dans les dialogues.
Excusez mon retard, Ridge, mais la mort de Doug Montgomery m'a profondément bouleversée.
Je ne savais pas que vous connaissiez les Montgomery.
Ridge se doute de ma relation avec Brett. Je ne peux lui dire la vérité. Je dois trouver une excuse qui expliquera ma présence chez les Montgomery.
Elle va me mentir, je le sais. Les femmes mentent, mais elles ont des seins.
Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'étais chez les Montgomery pour tourner un film pornographique.
Alors, on rigole, mais peut-être on a tort. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé en lisant l'article passionnant dans Vanity Fair qui suit le parcours du showrunner de France 3 et maintenant de France 2.
C'était le cœur à ses raisons.
Pardon ?
Oui, bien sûr.
Excusez-moi, je ris comme une bruta. C'était le cœur à ses raisons de Marc Brunet et on entendait Anne Dorval.
Oui. Feuilleton télévisé parodique québécois.
Et qui jouait cricket. Montgomery pour les adeptes. Oui, donc en fait, Plus belle la vie tient tête à Netflix. Et si l'idée c'était de garder captive en territoire français la ménagère, eh ben c'est une victoire au point et industrielle. Et on voulait avoir votre avis, Sébastien Castro, parce que vous avez joué dans des séries.
Non, j'ai cru dans Plus belle la vie.
Non, je sais. Vous avez joué dans des séries télé.
Des séries, bien sûr. J'en ai fait quelques-unes.
Et alors, est-ce que
j'aimais faire ça, oui, ou est-ce que j'en regarde?
Est-ce que vous en regardez?
Et je regarde pas je n'ai jamais regardé Plus belle la vie. Et peut-être que j'adorerais, en fait, j'ai remarqué que souvent, les gens qui disaient qu'ils n'aimaient pas avaient regardé 5 minutes maximum, voire 2 minutes, voire 30 secondes. Et je me dis, si quelqu'un entre au théâtre et regarde en plein milieu de la pièce 30 secondes, peut-être qu'il va pas accrocher. Et voilà, je me dis, si un jour j'ai envie de regarder un épisode entier, puis un deuxième, puis un troisième, voilà, je me ferai mon jugement à ce moment-là. Et je me dis que c'est tant d'accros et que les gens sont tellement en haleine devant ces séries-là, je pense que c'est pas par hasard depuis 15 ans.
Ou 15 ans,
c'est une réussite, effectivement. Vous avez aussi joué dans des programmes courts, oui, dans Samantha Oups, moi j'étais fan de ce truc-là, La Petite Histoire de France, ou Les Ravis de la Crèche sur Sister, petite chaîne de M6. Nous, on va vous proposer une sorte de micro-programme de sketch, si vous êtes d'accord.
Trop bien.
Alors, le thème du sketch, figurez-vous que depuis fin août, le militant écologiste Thomas Braille est perché dans un arbre face au ministère de la Transition écologique afin de dénoncer la coupe de 25 platanes âgés de 120 ans à Condon dans le Gers. À quoi peuvent bien ressembler ces journées? Sébastien, vous jouerez le rôle de l'homme dans l'arbre, Guillaume est le négociateur qui tente de le faire descendre et Charline sera une journaliste.
Descendez immédiatement de cet arbre.
Alors, vous n'avez pas besoin d'un mégaphone, je suis à côté de vous.
Oui, bon, je suis un professionnel de la négociation, alors descendez tout de suite, les voisins se plaignent là.
Les voisins, enfin à part un moineau et un sac plastique accroché à une branche, il n'y a pas grand monde.
Merde, j'avais pas prévu ça. Quelles sont vos revendications?
Alors c'est simple, je veux sauver les 25 platanes de Condon.
Oui, donc pour sauver les arbres, vous grimpez dessus. Hein, dites-moi heureusement que c'est des platanes et pas des cactus que vous voulez sauver.
Voilà, très marrant. En attendant, je ne descendrai pas tant que les arbres ne seront pas sauvés.
Ah merde, j'avais pas prévu ça. Je vais voir avec ma direction et je reviens.
Oh là là, pas moyen de faire une sieste tranquillement ici.
Monsieur Brice, alors je suis journaliste, j'aimerais savoir comment se passe votre séjour sur l'arbre.
Oh bah alors c'est plutôt sympa, il y a parfois un chien qui vient faire pipi au rez-de-chaussée, mais sinon ça gazouille.
Non, et vous voyez ce qui se passe à l'intérieur du ministère de l'écologie depuis là-haut?
Bah, techniquement, je vois surtout ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, c'est calme, c'est très très calme, c'est trop calme même, non?
Ah bon?
Ah oui, j'en parlais hier soir avec le moineau qui niche ici, et il me racontait que les choses ont beaucoup changé depuis cet été.
Ah bon, mais comme quoi?
Bah avant c'était soirée sur soirée, du homard par-ci, du champagne par-là, on se serait cru chez Michou.
Et maintenant?
Ah bah le seul qui a bougé depuis que je suis là, c'est le hérisson qui vit dans le jardin du ministère. C'est encore plus mort que le siège du PS.
Mais et la ministre de l'écologie, elle vient jamais?
Je sais pas, c'est qui en ce moment?
Je suis de retour!
Ah, arrêtez avec votre mégaphone, je suis pas dur de la feuille.
Oui, écoutez, je suis un professionnel de la négociation. Hein. J'ai pu obtenir donc la sauvegarde de 12 arbres et on en replante 8 dans la forêt de Rambouillet.
Non mais ça n'a rien à voir, je veux la survie de mes 25 platanes.
Ah, merde, j'avais pas prévu ça. Bon, écoutez, je suis un professionnel de la négociation. Alors, je peux aller jusqu'à 15 arbres et on en replante 10. Et la ministre vous offre un pass d'un an pour les autoroutes Vinci. La négociation, c'est quand même mon boulot.
Mais okay, je m'en fous de votre boulot puisque je vous dis que ce qui m'intéresse, c'est les platanes. Ah, puis non, on n'est pas au souk, là.
Oui, alors, parce que si je vous rajoute 2 sapins magiques, j'imagine que ce sera non, du coup.
Ah, j'avais pas prévu ça. C'est fâcheux parce que là, je vais prendre racine.
Merci Sébastien Castro, je rappelle que vous êtes au théâtre.
Est-ce qu'on peut juste préciser, comme je peux avoir tendance à avoir une voix sinistre, que c'est une pièce drôle?
Mais bien sûr. Elle s'appelle J'ai envie de toi. Au théâtre Fontaine jusqu'au 5 janvier. Et puis préparez-vous, il passe de janvier à avril 2021, sans doute dans votre ville. Merci beaucoup les amis.
Merci les amis.
À demain, où nous recevrons le comédien Michel Lescaut, actuellement sur les planches.
Entrez. C'est ouvert.